rendez-vous annuel automnal depuis 2009, le Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre s'affirme comme un rendez-vous incontournable de la littérature pyrénéenne. Je vous propose une petite balade à travers ce salon, au gré des stands entre livres historiques et fictions, livres écolo pour petits et grands, éditeurs installés ou auteurs-éditeurs. Mais commençons par la présentation du salon par son président.
Donc Renaud de Belfond. Je suis le président de l'association Binaros, qui est organisatrice du Salon du Livre Pyrénéen, dont c'est la 9e édition ce week-end, donc 6 et 7 octobre 2018. Voilà.
La thématique de ce salon, c'est tout ce qui concerne les Pyrénées, on va dire ?
C'est tout ce qui concerne les Pyrénées, le livre pyrénéen, mais même l'édition culturelle pyrénéenne. Donc c'est le but de l'association, c'est promouvoir le patrimoine pyrénéen, notamment à travers l'édition culturelle et plus particulièrement le livre.
D'où est venue cette idée au départ ?
D'amoureux du livre, mais je ne suis pas du tout à l'origine de l'association. Donc c'était Stéphane Lévesque et Sylvain Brianti qui ont été les premiers présidents de l'association, à qui j'ai succédé après leur décès, et qui ont lancé cette idée, notamment parce qu'il y avait eu un salon du livre pyrénéen à Font-Romeu il y a des années, qu'ils ont voulu prendre le relais quand il a disparu. Mais avec l'idée qu'il fallait en faire un événement de référence pour le livre pyrénéen, je crois que c'est devenu ça. Sur ce créneau comme ça, avec une continuité annuelle et avec cette importance, on est le seul. C'est-à-dire là, cette année, il y a 87 exposants. Ce qui fait quand même, sur le livre pyrénéen, je crois qu'on a à peu près tout ce qui traite du livre pyrénéen ou des Pyrénées par le livre.
Alors, quelles conditions il faut pour pouvoir avoir un stand ici ?
Ben essentiellement et prioritairement, avoir édité ou avoir écrit un livre qui a un rapport avec les Pyrénées. Bon, après, on a des bouquinistes aussi, mais qui viennent essentiellement vendre du livre pyrénéen ancien. Et on a des imprimeurs aussi, parce qu'il y a le côté professionnel du salon qu'on veut développer aussi.
Parmi les auteurs invités, Marie-Hélène Lunès.
Marie-Hélène Lunès, donc je suis l'auteur du roman Leur chemin, qui est paru aux éditions Hasard Atelier début 2018. Et je suis donc au salon du livre de Bagnères pour le présenter et le dédicacer.
En quelques mots, vous pouvez résumer votre roman ?
Oui, alors c'est difficile de résumer parce que il est assez complexe dans la chronologie, justement dans la déconstruction de la chronologie, d'une part, ce n'est pas linéaire, et ensuite aussi dans le chemin des personnages. Le titre, c'est Leur chemin, et le chemin des personnages, c'est effectivement, ce sont un chemin qui se tisse au fur et à mesure de la lecture, les personnages qui sont assez éloignés les uns des autres, tant géographiquement que aussi dans le temps, puisque je mêle des histoires qui partent de 1939 jusqu'à nos jours. Tous ces personnages vont avoir des liens communs et à la fin du livre, ils vont se retrouver côté espagnol dans la Val de Boy, près du Val d'Aran. Toute l'histoire se déroule le long des Pyrénées et entre Pyrénées orientales, Val d'Aran, parce que tous les personnages marchent.
Est-ce que le point commun, justement, ce sont les Pyrénées ?
Oui, voilà. Et c'est vraiment un personnage, les Pyrénées, parce que ce n'est pas un simple décor. Elles sont là pour accompagner la recherche dans la vie des gens, soit de leur identité. Leur quête personnelle se fait dans les Pyrénées, les rencontres amoureuses aussi, et les rencontres familiales. Mais aussi l'exil, les Pyrénées comme frontière et passage terrible entre l'Espagne et la France, et aussi difficile à franchir dans l'autre sens quand on est prisonnier en France et qu'on voudrait bien revenir en Espagne.
Justement, est-ce que la montagne, enfin les Pyrénées, c'est plus une terre d'exil ou un refuge ?
Ben, ça peut être les deux, c'est-à-dire quand on part d'Espagne, par exemple en 39, en faisant la retirada, les Pyrénées sont d'abord très difficiles à franchir parce qu'il fait très froid en février 39. Elles mènent vers l'exil pour les gens qui fuient le franquisme. Mais ensuite, ça peut être effectivement refuge où on va construire, et au-delà des Pyrénées, une nouvelle vie.
À travers ces générations, finalement, on a l'impression que ce qui est un peu intemporel et ce qui reste par-delà les destins des gens, ce sont justement ces montagnes.
Oui, je trouvais quelque chose de terrible. Bon, c'est pour tous les éléments de la nature, c'est pareil. La mer aussi, elle est éternelle. Voilà, la montagne aussi. Et elle est là, immuable. Et finalement, chaque génération a affaire et à voir avec ces montagnes. Bon, pour les gens qui vivent tout près, elles font vraiment partie de leur quotidien et de leur existence. Ils vivent de la montagne. Pour les randonneurs, ce sont des lieux de plaisir. Pour les réfugiés, ce sont des lieux de passage qui permettent voilà, les allées et venues.
Vous avez quel rapport avec ces montagnes ? Vous les avez pratiquées ?
Oui, moi j'ai fait de la randonnée. Bon, je ne suis pas très grande montagnarde, mais le fait d'avoir marché, d'avoir foulé les sols, d'avoir peiné aussi dans les montées, tout cela fait que j'ai pu vraiment décrire avec un plaisir toujours renouvelé les montagnes, l'hiver, l'été, à l'aube, au coucher du soleil. Oui, j'ai éprouvé vraiment une joie physique de parcourir les montagnes.
Vous parliez de l'époque de Franco, bon, le fait que les frontières aient été gommées, qu'il y ait eu l'Europe, toutes ces choses-là, est-ce que ça gomme pour autant les frontières que représentent les montagnes dans le destin des gens, dans la façon de se rencontrer ou pas ?
Je pense qu'effectivement, ils ne sont plus isolés, ils peuvent librement aller et venir, hein, parce que... Par exemple, la famille dont mon héroïne était, Catalina, voilà, quand elle franchit les Pyrénées, pendant des années, elle ne pourra pas revenir en Espagne parce qu'il y a le franquisme. Et dès que Franco est mort, les Espagnols ont pu aller voir leur famille quand même ensuite librement. Donc oui, bien sûr, tout cela est lié au régime de part et d'autre.
Votre livre, on peut le trouver où alors ?
Alors on peut le trouver dans les bonnes librairies, comme on dit selon la formule, et aussi en lien direct sur le site de Hasard Atelier, puisque mes éditeurs envoient le livre tout, sans frais de port.
Alors nous, on est comme maison d'édition Trabucaire. On est basé sur Perpignan, donc on vient de la Catalogne. Et on publie essentiellement des bouquins sur le patrimoine et l'histoire spécifique de la Catalogne française.
Ouais. C'est en français ou en catalan ?
Un peu les deux. On fait, fait un peu d'histoire. L'histoire, c'est en français. Après, on a une petite collection de romans en catalan ou de livres d'histoire en catalan aussi. Et ici, on est venu présenter donc... le bouquin qui a eu le prix Connaissance, voilà, qui s'appelle Un opéra catalan, La Fade. Donc c'est une étude sur une œuvre lyrique, sur un opéra.
Et votre offre, elle est assez variée, parce que je vois qu'il y a des choses qui partent des plantes, de la cuisine, ça va jusqu'à l'histoire. Par exemple, le journal de guerre de cet homme.
Oui. Alors ben, ça, c'est un bigourdan, il est de Trie-sur-Bèze. Donc c'était un carnet qu'il a tenu. Et donc ben, on a hérité du livre parce que ben, l'auteur Michel Ruquet connaissait les gens, la famille des Loiroui. Et Loiroui, pendant la guerre, a écrit ses carnets de guerre. Chose qui était très rare parce qu'ils n'avaient pas le droit d'écrire, ils n'avaient pas le droit de revenir avec... ils le cachaient, quoi, les carnets. Hein,
On parle de la guerre de 14. Là.
Ah oui, pardon, excusez-moi. On parle effectivement de la guerre de 14-18 qu'il a toute faite. Hein, des situations très, très compliquées. Hein. On voit que c'est vraiment... les gens se démoralisent. Bon, à la fin, il revient. Et il en parlait très peu, sa famille. Il racontait, comme toutes ces personnes qui ont fait la guerre de 14, il parlait très, très peu de ces événements. Quoi. À part avec son carnet qu'ils ont redécouvert bien plus tard. Voilà.
Donc ça a été redécouvert plus tard et...
Oui, par la famille. Hein. Voilà, qui en ont donc confié à l'historien Michel Ruquet. Alors, la partie historique, finalement, par rapport au carnet, c'est que l'historien, il recontextualise le passage carnet et il met en confrontation aussi le journal du régiment. Hein, parce que ben, M. Haroui dit bon, on est à tel endroit et on a fait telle manœuvre. Bon, Michel Ruquet est allé chercher dans les archives du régiment si effectivement, pour corroborer ce que dit le carnet, et lui également recontextualise un petit peu les faits de guerre.
Et catalan, malgré tout, donc c'est un autre ouvrage, pourquoi malgré tout ?
Ben parce qu'en fait, c'est un livre sur l'exil catalan en France, hein, et c'est comment, malgré l'exil, les gens ont gardé leur propre identité, comment ils ont fait pour garder leur identité, comment ça s'est passé. Donc ici, ce qu'explique l'auteur, c'est que se sont reconstitués en groupes, comme on dit, des espèces de diaspora, quoi. Hein. Les Catalans, ils ont monté des casals, ce qu'on appelle le casal. Il y a d'ailleurs le casal de Toulouse, qui est un casal assez connu. où ben, il maintenait l'idée d'un retour de la République, hein, où il faisait venir des chanteurs, où ils ont reconstitué leur vie, mais en France.
Ça peut être parfois un exil professionnel de gens qui ont été mutés très loin, des choses comme ça?
Oui. Disons qu'il y a eu deux exils hein, par rapport aux Catalans et Espagnols. C'est-à-dire, il y a le premier exil dû à la retirade et après il y a eu les exils économiques des années 60-70 qui sont effectivement des exils différents parce que les uns étaient vraiment très politisés, les premiers, les deuxièmes l'étaient beaucoup moins. Mais ils se retrouvaient, parce que les Espagnols c'était pareil, hein, ils se retrouvaient dans des associations d'Espagnols. Voilà.
Et on peut trouver vos livres où?
Au très bon libraire de Bagnères de Bigorre, puisqu'il a nos livres.
Pour les gens qui sont en France, ailleurs, sur Internet, vous avez...
Oui, sur le site de la maison d'édition.
Alors nous sommes les éditions Lettres d'Or Camis. Donc on propose ici sur Bagnères, là aujourd'hui, des ouvrages qui sont en gascon, en occitan gascon. Alors des choses soit sur la toponymie, soit sur des proverbes, des devinettes, etc. Mais aussi des romans, des nouvelles et autres. Également des livres audio avec des contes, voilà.
Où en est le gascon aujourd'hui?
Ah, il n'est pas très en bonne forme, ça je ne peux pas vous dire le contraire. Donc c'est pour ça qu'on essaye, nous, de produire des choses et d'aider des auteurs pour que... la transmission se fasse et aussi se fasse en respectant les racines, bien évidemment, mais en essayant de parler de choses d'aujourd'hui aussi.
Hein. Est-ce que sont des livres qui s'adressent aux jeunes ou à un public plus adulte?
Alors, on a des livres pour les enfants, des albums, hein, des albums illustrés, avec des CD d'ailleurs, et ensuite c'est adulte. Parce que malheureusement, la partie adolescent, il n'y a vraiment pas beaucoup qui vont lire des livres en gascon. Hein. Voilà. Donc il y a les deux pôles, les adultes et les enfants vraiment.
Et votre cible aujourd'hui, c'est qui? Enfin, qui lit ça? Je veux dire, on a souvent une idée que les gens qui parlent le gascon ont plus de 60 ans, 70 ans.
Oui, mais ceux qui lisent des romans, etc., c'est pas obligatoirement. Hein. Évidemment, il faut. Alors on a des livres bilingues, mais pour les livres qui sont pas bilingues, qui sont monolingues, il faut connaître la langue, bien évidemment. Et on met aussi quelquefois pour aider un peu pour le vocabulaire qui est riche hein, et puis un peu variable aussi d'un endroit à l'autre, on met des lexiques à la fin pour aider justement à la compréhension, à rentrer dans les ouvrages.
Le bilingue, ça existe. Donc il y a des livres où il y a une page en gascon, une autre.
Oui, ça existe. Alors soit pour des livres un peu de publication de documents anciens, ça peut exister. Par exemple, on a les forts de Béarn. C'est même quelqu'un qui sait très bien le gascon d'aujourd'hui, ou le béarnais, comme on veut, on appelle comme on veut, aura du mal parce que les réalités ont changé, et puis il y a un vocabulaire juridique technique. Ou soit pour des ouvrages qui sont soit des contes, soit des, comme je dis, des proverbes, des devinettes, etc., qui peuvent permettre d'entrer dans la langue par une accroche sur les coutumes, sur la toponymie aussi, on fait des choses comme ça, où là, en comprenant, par exemple, si on arrive à bien comprendre les mots du paysage, les mots de la montagne, les montagnes, les cours d'eau, etc., les forêts, ça permet aussi de mieux comprendre que la langue, elle a imprégné le terroir, le paysage et les montagnes.
Et est-ce qu'à travers ça, vous avez par exemple des gens hors territoire, je veux dire hors de la France?
Bien
ou de la
sûr,
région?
Bien, oui. Alors, à l'étranger, si vous voulez, on a, c'est plus alors des... alors on a un peu en Catalogne, en Espagne, et sinon c'est plus, je pense, des bibliothèques publiques ou des universités qui achètent quelques livres, un certain nombre de livres, soit en Allemagne, par exemple en Allemagne, en Suisse ou en Angleterre, oui. Voilà.
Où est-ce qu'on peut apprendre le gascon aujourd'hui?
Il y a les écoles, etc., qui sont bilingues, les calendrettes, hein, pour les enfants. Et après, je pense qu'il y a des cours, même je suis sûr, qu'il y a des cours, même par exemple dans les Hautes-Pyrénées, il y a des cours pour adultes qui sont organisés hein, par des associations occitanes ou gasconnes implantées localement. On publie des livres audio, justement. Hein. Alors, je ne parle pas... Bon, il y a bien sûr les CD qui accompagnent les albums pour enfants. Mais bien au-delà, par exemple, on a un livre, là, un roman de Jean-Louis Lavitte, qui est du Lavedan, hein, qui fait 160 pages. On l'a enregistré intégralement. Et donc, alors, il y a tout un tas de petits chapitres. Ça fait 3h30 d'écoute. Hein, voilà. Et on a d'autres projets. On enregistre des nouvelles et des romans en livre audio, hein, ce qu'on appelle livre audio, donc format MP3, qui est donc écoutable par toute personne, même celle qui ne sait pas lire, même celle qui a des difficultés de vision. Bah, ça peut arriver aussi, hein, malheureusement. Donc, on fait ça aussi, et pour transmettre le son de la langue.
Votre public, autant que vous puissiez le connaître, quel serait son profil ?
Alors, il y a évidemment les gens qui aiment les livres, hein, bien sûr, et qui maîtrisent la langue. Mais il y a aussi des gens qui n'iraient pas en librairie, je dirais, de façon spontanée, hein, et qui peuvent être intéressés par un livre, par exemple. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que le lectorat, comme malheureusement le lectorat en français aussi, il vieillit un peu. Je ne vais pas dire le contraire. Hein. Et tout notre travail, c'est d'arriver à acquérir de nouveaux lecteurs plus jeunes. Ça, c'est tout notre travail, bien sûr. Le livre papier, c'est un objet. Et heureusement, il y a encore des gens qui ont envie de tenir cet objet dans les mains comme support de lecture.
Est-ce que vous avez un site internet ?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, c'est www.letrasdoc.org.
Bonjour, c'est un jeu de société, donc traverser les Pyrénées le jeu, avec une version à pied par les sommets frontaliers ou par le GR10. On part de l'Atlantique ou de la Méditerranée, on jette le dé, on avance avec les pions et après on pioche les cartes en fonction de la couleur des cases. Dans les cartes, vous avez des questions qui concernent bien sûr les Pyrénées, la faune, la flore, les spécialités. Vous avez aussi des impondérables avec tous les aléas du voyage et des défis aussi. Quelques questions aussi, bien entendu, sur le vocabulaire local. Vous avez des règles de jeu pour adultes et des variantes pour jouer avec les enfants. À partir de 3 ans, ils ont un trouvé la faune et la flore en rapport avec les cartes faune et flore du jeu. Un memory sur le plateau avec des cartes qui sont spécialement marquées. Et après, au fur et à mesure qu'ils grandissent ou quand on joue avec des non-connaisseurs, on a toujours un niveau 1 avec des indices, on peut montrer l'illustration, et un niveau 2 au dos de la carte. Comme ça, le jeu s'adapte à tous les niveaux et à tous les âges de joueurs.
Il existe depuis quand ce jeu ?
Alors la version à pied est sortie en novembre 2017. Il y avait eu une première version à vélo et parapente donc sortie en octobre 2016 qui est presque épuisée. Il reste 2-3 exemplaires. Mais on peut quand même avoir le parcours sous forme d'extension en autocollant pour pouvoir aussi jouer avec les mêmes cartes que du parcours à pied. Alors c'est une création personnelle et il est diffusé par l'association Création Pyrénées. Donc c'est une association qui a été créée justement pour tester l'impact du jeu sur le public.
Et quel retour vous avez ?
Ah, pour le moment, que des bons retours. C'est déjà pas mal. Donc, normalement, l'expérience continue.
Et le jeu, on peut le trouver où, en fait ?
Alors, vous avez un site internet, traverserlespyrénéeslejeu.fr, avec des petits tirets entre chaque mot, où vous avez un onglet où trouver le jeu, avec la liste des dépôts et des marchés et foires où nous présentons le jeu.
Vous avez vous-même traversé les Pyrénées ?
Oui, je les ai traversés, mais je les ai traversés ni en vélo, ni en parapente, ni à pied. J'ai fait le jeu de société justement par rapport à des problèmes physiques qui m'ont cloué chez moi. Et c'est pour ça que le jeu est sorti.
Et il faut être très calé en Pyrénées ?
Il y a plusieurs niveaux quand même. Il y a un niveau 1 avec des indices supplémentaires. On peut aussi montrer l'illustration. Et bien sûr, il y a des questions calées, notamment sur la flore. Mais il en faut pour tous les niveaux. Donc il y en a des faciles et des plus difficiles. Ah non, le jeu vit par lui-même, déjà, c'est déjà pas mal. Après, on verra si j'arrive à en vivre un jour. Mais le jeu vit par lui-même.
Vous avez tout conçu du départ à la fin ?
Oui, j'ai tout conçu. Je me suis fait, bien sûr, superviser mon travail par des accompagnateurs montagne, parapentistes, occitanistes, naturalistes, pour que je ne fasse pas d'erreur, justement, dans mon jeu.
Et une partie de ce jeu dure combien de temps ?
À peu près environ une heure, entre trois quarts d'heure et une heure, bien sûr. Si tout le monde fait des six, ça va plus vite.
Vous avez aussi des animations, enfin, on peut l'entendre un peu là, il y a des, en gros, comment ça se passe ? Il y a une salle de conférence, je crois, et puis, hein.
Alors, il y a une salle de conférence où on fait des rencontres avec des auteurs qui durent une heure et demie à peu près.
Renaud de Belfond, président de l'association Binaros, organisatrice du salon.
Et on fait des petits cafés littéraires qui durent une demi-heure à peu près, hein. C'est variable sur le... pour effectivement permettre à des auteurs qui sont sur des stands de ne pas non plus faire que rester derrière. Alors on ne peut pas tous les faire passer, évidemment, mais d'avoir donné un peu d'animation aussi aux auteurs qui sont derrière les stands pour peut-être attirer un peu de gens vers eux. Voilà. Après, c'est très aléatoire, c'est en fonction de ce que nous disent les exposants. J'aurai telle hauteur sur mon stand, donc nous on note et on voit qui c'est qu'on peut inviter. Des fois ils ne nous le disent pas, alors tant pis.
J'ai vu qu'il y avait pas mal d'auteurs producteurs. Il y a une part, disons, de gens plus installés dans la profession, puis de gens dont c'est parfois les premiers livres.
De toute façon, tout ce qui est auteur auto-édité, effectivement, recherche de toute manière les salons. Pour eux, c'est un lieu de vente très important, plus que les librairies. Donc, effectivement, on a une proportion importante que je n'ai pas calculée, donc je ne la donnerai pas. Mais elle est effectivement importante.
J'ai vu que vous aviez aussi, par ailleurs, des animations, notamment dans la bouquinerie associative. Donc, ça veut dire qu'à Bagnères, il y a une dynamique au niveau de la lecture, du livre.
À Bagnères, il y a une dynamique. C'est vrai qu'il y a une bouquinerie associative sur Bagnères. Il y a quand même une dynamique à Bagnères sur la lecture. Mais l'association Binaros essaye de tisser des partenariats avec plusieurs structures. Donc, on a un espace d'animation, on va dire jeu de mots, qui s'appelle Pire et Scribe, qui est fait par une association de l'Ariège avec qui on a un partenariat qui fait cet espace que pour nous. Et après, on a tissé aussi des relations avec la Maison de la Montagne à Pau, où actuellement il y a une exposition de Jacques Brianti qui est Longeons les frontières, donc sur le thème de la frontière. Voilà.
Vous avez aussi un prix, hein, je crois, c'est ça, ou peut-être plusieurs.
On a quatre prix qu'on décerne tous les ans. Donc un prix du livre pyrénéen Connaissance, qui, comme son nom l'indique, est un prix pour un livre qui apporte quelque chose à la connaissance des Pyrénées, sur un point particulier ou sur quelque chose de plus global. Un prix du livre pyrénéen Littérature, où là c'est plutôt les livres de fiction, les récits de voyage dans les Pyrénées. Un prix du livre pyrénéen guide, là c'est plutôt tout ce qui est livre pratique, alors évidemment on pense tout de suite au topo guide, mais ça peut être des atlas naturalistes, ça pourrait être des livres de cuisine, des choses comme ça. Et un prix du livre pyrénéen Binaros, c'est tous les livres qui ne rentrent pas dans les trois premiers prix.
Ben, je m'appelle Laurence Loriot, donc je suis de Pau. Et j'écris des romans, recueils de poèmes et livres pour enfants avec une petite héroïne qui s'appelle Flamette. Les livres d'enfants, il y a trois axes en fait. Il y a le conte pour les tout petits, l'histoire de France racontée aux 5-7 ans et découverte du monde pour les 9-11 ans.
Ça fait longtemps que vous écrivez ?
Depuis toujours, mais que je me publie depuis 2010.
D'accord, et vous êtes en quelle structure ? Vous êtes vous-même votre propre maison d'édition ?
Je suis en auto-édition, Société Jeux de mots, voilà.
Pour vous, ça a quelle signification de venir dans des salons comme ça ?
Alors, c'est déjà de rencontrer mes lecteurs, déjà, puisque ça fait plusieurs années maintenant que je vais sur Bagnères, mais surtout un échange humain énorme qu'on a avec des personnes qui passent, que ce soit mes lecteurs ou d'autres personnes qui viennent découvrir. C'est surtout un échange. On peut se faire connaître, évidemment, bien sûr. C'est juste pour le plaisir. Le jour où j'ai plus le plaisir d'écrire et de partager, j'arrête.
Et ça veut dire que vous avez une autre activité pour vivre à côté ?
Alors, j'ai une activité professionnelle. Je suis assistante maternelle.
Et le plaisir de l'écriture, ça vous a pris tôt ?
J'avais 10 ans. J'ai commencé par des poèmes, comme beaucoup, et puis quelques nouvelles. Et un jour, en 2008, en déménageant, j'ai retrouvé des petites notes que j'avais pris des idées de nouvelles au départ. Et en fait, j'ai sorti mon premier roman. C'est en essayant de développer cette nouvelle, je me suis aperçue au bout de 50 pages que j'en étais qu'à la moitié de mon idée. Et là, j'ai vu mes personnages se former tout seuls, sans trame, sans rien. Mon histoire est apparue. Et j'ai publié ce premier roman. J'en ai vendu 200 en deux mois. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un potentiel à pousser. Puis c'est surtout le plaisir que j'ai eu à écrire.
Vous avez essayé de faire les stratégies habituelles, d'aller vers des grosses maisons
ou... Oui, bien sûr. J'ai eu, alors, les grosses maisons, donc non, on me répondait simplement, faites pas partie de notre ligne éditoriale, voilà, lettre type. Moi, ce que je les appelais pour savoir, parce que si c'était simplement parce que c'était pas assez abouti, parce que, voilà, pourquoi ils ne pouvaient pas me publier. Bon, on m'a dit simplement, un jour, on m'a répondu, c'était chez Gallimard, mais vous savez, on reçoit tellement de manuscrits que les trois quarts, on les lit pas. Enfin, la secrétaire m'a dit souvent... quand c'est des personnes qui ne sont pas connues, souvent ça part un peu à la trappe. Et puis après, j'ai eu des contrats de maisons d'édition qui demandent des participations. Alors j'ai eu un super contrat avec télévision, etc. Bon, je me suis méfiée, je me suis dit c'est un peu trop beau pour être peut-être honnête, j'en sais rien. Et donc j'ai décidé de m'auto-éditer, tout simplement. Voilà, d'être mon propre patron et d'être libre de faire ce que je veux.
Et ça prend pas trop sur le temps de... puisque vous avez un travail, sur le temps d'écriture.
Voilà, bon, mais c'est... après, je n'ai aucune pression, donc je le fais à mes temps de loisirs. Ça peut être la nuit, ça peut être un week-end, ça peut être... Voilà, quand j'ai envie d'écrire, j'écris. Je fais toute ma mise en page et après, je l'envoie à un imprimeur, mais qui est ici d'ailleurs, Pedro Marquina, qui a la maison d'imprimerie Huela Digital.
Vous avez édité pour l'instant combien de livres ?
J'ai édité 2 romans, 1 recueil de poèmes et 7 livres d'enfants. Et là, j'ai actuellement 2 romans en cours d'écriture et 1 livre d'enfants qui vient de sortir et 1 qui va sortir bientôt.
Et c'est des romans ou des livres d'enfants qui, dont le contexte, c'est la région ou...
Alors, non, pas forcément, justement. On l'a un petit peu reproché, donc il y en aura un qui viendra sur la région. Non, là, il y a l'histoire de France. Alors, pour l'instant, j'ai fait la Révolution française et la préhistoire. Alors, il n'y a pas de suite logique. J'ai commencé par la Révolution française parce que pour moi, ça me paraissait tellement dur d'écrire pour des tout petits que je me suis dit, si celui-là passe, je continuerai. Donc, effectivement, il a été soumis à des enfants. Et j'ai retravaillé les textes avec leurs ressentis, avec les remontées qu'ils m'ont fait de leurs difficultés. Il a très bien marché. Donc là, j'ai sorti la préhistoire. Et puis après, on va remonter les siècles, tout en suivant la petite héroïne qui s'appelle Flamette. Après, il y a la découverte du monde, parce que voilà, on va voir comment vivent les copains dans d'autres pays. Donc il y a les Sioux qui sont arrivés, il y a les Touaregs. Et puis on va partir. Prochain, je pense que c'est à l'île de la Réunion, voilà, où j'ai vécu d'ailleurs. Et puis il y a le conte pur pour les tout petits.
Par exemple, votre travail vous permet de, entre guillemets, tester vos...
Bien sûr, parce que j'ai des enfants qui vont de 7 mois à 7 ans. Donc voilà, donc je teste avec eux, puis moi j'ai moi-même 7 petits-enfants. Donc voilà, j'ai du public à côté.
Vous n'avez jamais été vers le conte, vers la narration ?
Alors si, et j'avais d'ailleurs animé un Noël à Bagnères de Bigorre au centre de loisirs, on avait fait une après-midi conte. Mais après, c'est le temps qui me manque.
Et vous n'avez jamais cherché à en vivre, en tout cas ?
Disons que non, c'est pas vivable, pas à mon niveau, quoi.
C'est le plaisir avant tout.
C'est le plaisir avant tout. Le plaisir d'écrire et puis le plaisir de partager ce qu'on aime.
Je suis Stelle Loiseau, je suis écrivain, biographe et animatrice d'atelier. Et donc sur mon stand, on peut trouver donc, mes contes, les ouvrages que j'écris moi-même et que j'édite moi-même. Donc l'étoile du petit berger qui est mon tout premier conte.
D'accord.
Le trésor de l'île magique, second conte. Alors c'est si bon aussi qu'il y a un petit livre de recettes, mais c'est aussi des livres de recettes pour bien vivre. Parce qu'en fait, mon axe d'écriture, c'est le respect de soi, la confiance en soi et oser aller au bout de ses rêves. C'est pour ça que j'écris et que j'édite également, pour aller au bout du chemin. Alors ensuite, je suis biographe, donc j'écris des récits de vie, essentiellement des personnes âgées, en fait, qui livrent leur vie à leurs enfants et petits-enfants. Donc c'est des moments de pur bonheur. Et puis, j'ai là sur mon stand, en fait, un livre qui est le parcours d'une femme face au cancer du larynx, donc Nadine Liopis, qui, c'est pour elle, comme une main tendue, en fait, pour témoigner de son parcours. Voilà, c'est un très, très beau livre, plein de vie, surtout. Et elle est très accessible, vous pouvez la rencontrer quand vous voulez. Voilà. Et ensuite, pour les ateliers d'écriture, j'ai Coulé Métis. Coulé Métis, c'est un voyage au cœur de la fournaise. Donc c'est un recueil de photos et de textes, donc textes écrits pendant mes ateliers d'écriture. Et les photos sont prises par Jean-Louis Ray, qui est juste à côté de moi, là. Et donc, en fait, on a une exposition qui se déroulera prochainement donc à Mourinx et puis fin décembre à la Cité des Pyrénées à Pau. Et à cette occasion, en fait, on fera un moment phare le 20 décembre pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. 20 décembre 1848. Et donc cette année, on fête les 170 ans. Et donc j'organise une grosse journée à la Coulée Douce. C'est un espace de vie qui est tenu par la MJC Berlioz. Donc là, j'invite tout le monde à venir. Grosse journée, de 9h à minuit. Plein de moments à vivre.
Je me posais la question sur les biographies. Par exemple, on ne voit jamais ces choses-là. Est-ce que dans les parcours biographiques des gens, on pourrait envisager qu'un jour ou l'autre, ça s'affiche, avec évidemment leur accord, dans des salons de livres, dans des choses comme ça?
Alors, il y en a quelques-uns. Là, celui de Nadine, il y a une partie de sa vie, hein, puis donc il y a un axe d'écriture. Probablement que les biographies... alors, moi, la façon que j'ai de les écrire, c'est quand même très, très intime. Donc, ça reste vraiment dans le cercle familial. quand on décide de le faire sortir publiquement, il y a quand même une réécriture encore à faire. C'est ce que j'ai fait sur le livre de Nadine, qui au départ était uniquement pour le cercle familial. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai réécrit quand on a décidé de le sortir. Voilà, c'est vraiment... L'écriture, c'est ça aussi, c'est que bah, ça se façonne, il faut énormément de temps. Là, c'est 3 ans de boulot.
Le travail, donc, par exemple, de collectage de biographies, ça se fait comment ? Ça se fait en plusieurs séances ou ça peut être...
Alors, on est nombreux hein, quand même sur le territoire. Moi, je suis 64 et après, j'œuvre 65, 33, 40, je monte jusqu'au 49, ça dépend. Hein. En fait, moi, je n'enregistre pas. J'écris tout à la main sur un cahier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'écris, je suis très, très concentrée. Et je suis vraiment avec la personne. Donc c'est vrai que j'écris vite, plutôt mal, mais j'arrive à me relire. Voilà. Mais j'écris tout pour être vraiment, vraiment concentrée. Et ça me permet après de récupérer. Donc je récupère la matière. Je dis que je fais un peu comme quand on fait de l'argile. La terre, bah là, moi, c'est de la matière. Ce sont tous les mots. J'écris tout. Et ensuite, je saisis. Et après, je façonne. Donc il y a un premier jet, un deuxième jet. Voilà, c'est long. Ça se façonne, ça... Je dis façonner plus que travailler. Je préfère ce mot-là.
Et le résultat final, c'est un livre à quelques exemplaires ou...
Alors, ça peut aller de 4 exemplaires à le plus grand nombre que j'ai imprimé pour une biographie, c'est 85 exemplaires. Ça dépend après du nombre de personnes dans la famille. Mais là, par exemple, pour 85, le livre que j'avais imprimé en 85 exemplaires, comme il y a beaucoup de gens qui connaissent cette femme, ils veulent le livre et ils veulent l'acheter. On ne l'a pas mis en vente, donc on le prête et voilà, on trouve des solutions, on réimprime. Mais voilà, c'est assez formidable. Et là, à côté de moi, Jean-Louis, le livre qu'il a devant lui, donc que j'ai édité pour lui, donc c'est lui qui l'a écrit. Moi, je n'ai fait que la mise en page et je l'édite. En fait, au départ, c'est un livre qu'il avait uniquement pour sa famille. Et puis, on s'est aperçu que ça pouvait être quelque chose à partager. Donc, il est là depuis hier. Et il a vendu ses premiers exemplaires hier. Voilà.
Et la maison d'édition, c'est quoi ?
Eh ben c'est moi, c'est Estelle Loiseau. En fait, j'ai créé Estelle Loiseau comme j'ai constaté qu'Odile Jacob avait créé sa maison d'édition, ou Robert Laffont. Voilà. Je me suis dit, c'est pas la peine que j'écrive.
Et la diffusion, c'est essentiellement les salons, un site internet ou...
Alors, j'ai mon site internet, donc estelleloiseau.fr. Je fais très simple. Et donc, on peut commander mes ouvrages sur le site. Et puis ensuite, à chaque salon. Ce qui est important, alors moi, j'écris de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est des récits authentiques et intimes. C'est pour ça que j'aime les salons et les rencontres et les dédicaces, parce qu'on est vraiment au contact des gens. Mais on est dans la vraie vie, quoi. Voilà.
C'est un modèle économique viable ou...
Comme dit Boris Vian, gagner ma vie, mais je l'ai déjà. Voilà, oui, mais après, c'est du boulot.
Oui, parce que tu fais tout la mise en page.
Oui, et après, je fais imprimer chez ICN à Orthès. Voilà. Alors, je fais les premières mises en page. ICN, ceux-là, par exemple, c'est vraiment, j'ai tout fait. Donc, ICN imprime. Là, ICN a fait la mise en page. Là, j'ai fait la mise en page et ICN a fait la couverture. Donc, voilà, c'est vraiment... J'ai choisi aussi un imprimeur local parce que j'aime le contact, donc on peut aller discuter avec les gens. En plus, ce sont des gens formidables.
Bon, on va rappeler le site internet, donc c'est estelleloiseau.fr, c'est ça ?
Estelleloiseau.fr.
Nous sommes sur les oiseaux des Pyrénées. Voilà, et nous avons essayé de faire un livre qui s'adresse à tous les publics, c'est-à-dire pas seulement aux gens qui peuvent monter en haute montagne et voir les grandes espèces emblématiques, les grands rapaces. Alors nous avons présenté tous les lacs, les rivières, les vallées, les jardins, tous les milieux des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, de l'Ariège, voilà. Pyrénées centrales et occidentales.
Comment s'est fait ce travail de collection, de collectage, je veux dire, des photos, c'est des gens...
Voilà, donc c'est moi qui ai fait la quasi-totalité des photos du livre. Je suis accompagnateur en montagne et depuis toujours, je suis passionné de photos d'oiseaux. Donc j'ai accumulé un gros stock d'images et quand ma mère a fait les textes ils étaient préalables à l'idée du livre puisqu'ils sont issus d'une gazette qui a disparu maintenant.
Et
Gazette des Vallées, voilà. Et donc il a été décidé avec notre éditeur d'illustrer ce livre avec mes photos essentiellement. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver la plupart des oiseaux illustrés dans ce livre et quelques contributeurs ont été sollicités pour les oiseaux que je n'avais pas pu photographier. Voilà. Il y a 106 espèces représentées. Voilà. vrai.
Et ça représente l'ensemble de la chaîne des Pyrénées ?
Pyrénées centrales et occidentales. On n'est pas allé sur le côté oriental des Pyrénées parce qu'il y a des espèces très différentes qu'on connaît moins, puisque nous, on est originaire du coin, hein, de la Bigorre. Et donc, on s'est centré là sur les oiseaux qu'on connaissait bien.
Et techniquement, vous arrivez à les approcher pour les photographier ou...
On a du gros matériel, effectivement. Après, ça dépend beaucoup des espèces. Il y a des espèces qui sont très sensibles au dérangement, comme par exemple le coq de bruyère, où là, on est obligé d'opérer un affût, de monter à 2h du matin, de s'installer avant que le coq sorte, etc. Donc là, on a des longues focales, on a un affût, on reste statique. Il y a des espèces, comme la plupart des mésanges, par exemple, qui sont beaucoup plus faciles à approcher, où là, on a besoin de moins de matériel, bon, un petit peu de patience, bien sûr, mais on peut faire avec un matériel un peu plus classique, on va dire.
Et la qualité principale, c'est quoi ? C'est la patience ? C'est d'être là au bon moment ?
Alors, il faut un peu de chance, effectivement, être là au bon moment, mais c'est surtout beaucoup de travail. Patience, et pas que, parce qu'il faut aussi connaître un peu l'habitat des oiseaux, savoir où c'est que je peux trouver tel oiseau. Et voilà, il faut provoquer un peu la chance.
Vous baladez dans les Pyrénées, au niveau de la biodiversité, vous avez remarqué des changements ou...
Alors, ouais, il y a des changements. Alors, on a des espèces en régression, malheureusement, comme le grand tétra, le lagopède, des choses comme ça. Et après, je pense qu'il y a un changement, ouais, qui peut être attribué, à mon avis, au réchauffement climatique, notamment dans le comportement de certains oiseaux. Les grues, par exemple, avant, elles passaient toutes en Espagne. Maintenant, il y en a beaucoup qui restent dans les Hautes-Pyrénées, par exemple, sur le lac de Puy-d'Arieux. Les palombes aussi, elles passent beaucoup moins les cols pyrénéens. Il y en a beaucoup qui hivernent, en fait, même dans les villes. Vous en avez à Toulouse, vous en avez jusqu'à Paris.
Des oiseaux comme les fauvettes des jardins, les fauvettes à tête noire, qui renoncent à migrer et qui, quelquefois, se font piéger par la neige, mais qui essaient de plus en plus de rester sur place. Oui.
Voilà, donc des modifications de comportement liées probablement au réchauffement, ouais, et au fait que les cigognes aussi qui nichent de plus en plus dans nos basses vallées.
Oui. Et puis des espèces qui se propagent de plus en plus comme cette grande aigrette que l'on ne voyait pas il y a encore une quinzaine d'années et qui est de plus en plus fréquente, qui viennent hiverner essentiellement dans nos régions. Et donc les Pyrénées réservent de belles surprises à des cigognes et des aigrettes, espèces que l'on n'attend pas a priori.
Il y a des aigles ou des vautours toujours ?
Bien sûr, il y a des aigles, il y a des vautours dans le livre, vous pourrez les découvrir, bien sûr. Alors les vautours, c'est une espèce maintenant un petit peu emblématique des montagnes. On a plus de 800 couples sur les Pyrénées françaises. Hein. Donc c'est une espèce qu'on est quasi obligé de voir là, si on se balade en montagne par ici. Les aigles, il y en a beaucoup moins quand même. Hein. Il y a
70-80 couples sur le versant français, essentiellement dans le parc national, la moitié dans le parc national.
Voilà. Bon, c'est aussi un petit peu l'objet d'un livre sur les oiseaux, c'est de faire la distinction entre l'aigle et la buse, qui peut ressembler de loin. Il y a beaucoup de gens qui croient voir des aigles et qui voient des buses, en fait. Voilà, donc on a essayé aussi de faire un petit topo,
des mosaïques
qui permettent de distinguer les différents oiseaux.
C'est un livre qui s'appelle Les oiseaux des Pyrénées, voilà. Au fil des saisons, ouais. Et la maison d'édition, c'est vous aussi ?
C'est Kern, voilà, édition Kern, donc basée à Morlas, dans les Pyrénées-Atlantiques, à côté de Pau. Voilà.
Et vous produisez d'autres choses, enfin d'autres ouvrages que celui-là, je vois. On n'a pas parlé des textes, mais vous disiez que c'était une reprise de la Gazette.
Alors, c'est une reprise un petit peu modifiée des articles qui avaient paru dans la Gazette des Vallées entre 2000 et 2010 environ. Et lorsque la Gazette s'est arrêtée, les lecteurs m'ont dit « Mais maintenant, où est-ce qu'on va lire des articles sur les oiseaux ?» Et donc, j'ai eu l'idée, comme Rémi était photographe, de reprendre ces articles en les condensant, selon le souhait de l'éditeur, et en les actualisant, parce que les chiffres avaient changé au fil des années, hein, les chiffres concernant les populations d'oiseaux. Et voilà, on a choisi de faire ce livre qui a été... Et puis M. Kerrebel, des éditions Kern, nous a donné notre chance.
Okay, on peut retrouver le livre, par contre, sur le site des éditions Kern. Hein.
On le trouve dans toutes les bonnes librairies.
Voilà, exactement. Et notamment la librairie Pyrène. Là, vous êtes sur le stand de la librairie auprès de Pyrène. Voilà, il est tout frais sorti.
Binaros, le nom vient d'où ?
D'un petit vallon qui est dans la vallée de l'Espone, et qu'a affectionné tout particulièrement Stéphane Lévesque, le créateur du Salon du Livre.
Bruno de Belfond, président de l'association Binaros, organisatrice du Salon.
Qu'est-ce qui vous marque, vous, chaque année, quand vous participez à ce Salon ?
La diversité de la publication, l'importance, on a quand même eu 77 livres cette année à lire, le jury. Et oui, la diversité des sujets qu'on peut retrouver à travers le livre Pyrénées, qui fait finalement la littérature en général.
Alors je suppose qu'aujourd'hui c'est beaucoup de plaisir pour vous, mais pendant toute l'année c'est du travail, c'est de la préparation.
Ah ben c'est du travail toute l'année. On commence déjà à penser au salon de l'an prochain.
D'accord.
On n'a pas fini celui-là. Et puis l'association Binaros a par ailleurs des projets de développement. On a été soutenu par le conseil départemental sur un projet de développement territorial, donc plutôt d'ordre, on va dire, économique, pour effectivement développer l'action qu'on a. Là, c'était sur la forme d'une étude, pour voir comment on pouvait arriver à se développer, pour effectivement aller... L'idée, c'est quand même d'arriver, là, c'est fait que par des bénévoles, c'est d'arriver à pouvoir rémunérer... Alors, on commence à rémunérer les auteurs qui interviennent dans les rencontres-conférences, et ça serait de pouvoir rémunérer quelqu'un pour quand même suivre le travail sur toute l'année.
D'accord. Vous avez beaucoup de bénévoles dans l'association ?
On a une quarantaine de bénévoles. Voilà. Après, on travaille sur toute l'année, on va dire qu'on est une grosse dizaine.
Et qui est-ce qui vous aide pour organiser ce festival ?
Ben, la plupart des collectivités territoriales, donc en partant des communes ici, de la communauté de communes, le conseil départemental, conseil régional, le parc national, le commissariat général de l'égalité au territoire, Massif Pyrénées, ça, j'ai tout dit. Là, c'est notre gros soutien institutionnel, lui. Hein. Et après, de plus en plus de partenaires privés et qu'on commence à recruter sur des vallées différentes de Bagnères. Donc, on a effectivement, cette année, on a eu la Balaguer, on a des gens qui viennent de l'Ariège aussi. Donc, on commence à avoir des partenaires qui ne viennent pas que de Bagnères.
Oui, bonjour, je suis Raphaël Jessic des éditions de Plaines en Vallée. Je suis basée à Bedpouey, de l'autre côté du col du Tourmalet, donc dans le département. Et je propose des livres jeunesse, pas exclusivement, parce que j'ai d'autres titres également, un roman jeunesse, mais un livre de cuisine cette année et des livres sur le cyclisme. Voilà, on me connaît un peu plus sous le nom de Myrtille la Marmotte et d'autres personnages qui deviennent récurrents maintenant chez moi.
Donc vous êtes auteur
Je suis auteur et éditeur.
Et ça fait longtemps que vous écrivez des livres pour les enfants ?
Alors, j'ai pas commencé avec ça, j'ai commencé avec un guide touristique qui a référencé tout le patrimoine du département. Et ma fille, un jour, m'a demandé de lui écrire une histoire. Et voilà comment j'ai basculé dans le côté jeunesse avec Myrtille la Marmotte.
Comment vous travaillez pour le graphisme alors ?
Ah, je fais appel à des illustrateurs. Ça, c'est un métier à part. Vraiment, c'est un métier complet d'illustration.
Et habituellement, donc, vos livres reprennent, disons, l'environnement des Pyrénées ou pas spécialement ?
Alors, j'ai plusieurs thématiques, mais effectivement, avec la collection Myrtille la Marmotte et d'autres titres comme Laurent le Berger, Néou, le Patou, la Transhumance, je suis plus axée montagne, effectivement, et patrimoine, et tout ce qu'on peut apprendre, tout ce que les enfants peuvent apprendre sur la montagne, la nature, ses coutumes.
Et c'est quelle tranche, disons, de l'âge ?
Ça va de 3 à 107 ans.
D'accord.
Pour voir large. Non, mais ça, plus sérieusement, des livres comme Laurent le Berger, par exemple, où j'explique dedans, c'est l'histoire en fait de mon cousin, la façon dont il a appris à travailler petit avec son père et son grand-père, et ça explique toute l'évolution du pastoralisme avant et après l'apparition du tracteur, pardon. C'est un livre qui s'adresse à toute la famille et que les adultes prennent et gardent pour eux assez fréquemment aussi.
D'accord. Et donc c'est entre les choses oniriques et les choses réelles, on va dire ?
Absolument. Absolument.
Et vos personnages, ils sont nés comment ?
Alors, à part Laurent le Berger, qui est un personnage réel, les autres sortent de l'imagination, la mienne et celle des autres auteurs qui sont publiés chez moi.
Vous pouvez nous dire quelques mots de Gaston le Mouton ?
Gaston. Gaston est un mouton ronchon, mais très très sympathique. Il est écrit par Aurélie Bombas, illustré par Fabien Octolambert. Ce sont deux noms qui émergent au niveau jeunesse. Et c'est écrit tout en rime, avec de franchement très très belles illustrations.
Donc vous avez une maison d'édition, ça veut dire que vous éditez aussi d'autres gens ?
Oui, absolument. Oui, absolument, puisque là ce sont deux auteurs édités.
On peut trouver vos livres un petit peu partout, je suppose ?
Oui, absolument. Dans le département, hors département et sur mon site internet également.
Donc vous allez nous donner l'adresse, bien sûr.
Alors c'est deplainesenvallées.com.
Thank you.
c'est une bouquinerie associative, donc c'est une association, loi de 1901, qui fonctionne avec une permanente qui est en emploi aidé pour le moment, et un autre jeune qui nous aide, là, qui est un Arménien, qui lui bénéficie d'un contrat de la jeunesse et des sports. Et donc autour de ces deux piliers, un petit peu, gravitent tout un tas de bénévoles dont je vais partir.
Alors comment fonctionne la bouquinerie ?
Alors les livres en général, à part le Fonds Pyrénéen que nous achetons en majorité, mais bon, certains livres du Fonds Pyrénéen nous sont donnés aussi. Mais autrement, les gens apportent leurs livres, des livres dont ils veulent se débarrasser, pour tout dire, dont ils n'ont plus besoin, et nous les remettons dans le circuit, moyennant des prix très accessibles. Parce que le but de la bouquinerie, donc, puisque c'est une asso, ce n'est pas de faire des affaires, mais c'est de favoriser l'accès à la lecture du plus grand nombre.
Vous avez sélectionné quand même les thématiques, ou c'est parce que vous êtes au salon aujourd'hui, là, je veux que ça parle.
Nous sommes au salon. Là, ce sont les livres essentiellement pyrénéens et qui ont rapport avec la montagne. Autrement, vous avez en face des thermes, de l'entrée des grands thermes, vous avez la boutique permanente, donc qui est ouverte.
Et là, sur les livres sur les Pyrénées, par exemple, vous pouvez nous en présenter quelques-uns?
Bien sûr, enfin, moi, je suis pyrénéiste, mais en présenter quelques-uns.
Ou un livre que vous aimez particulièrement?
Je regardais une nouvelle fois celui-là que j'aime beaucoup.
Oui.
Ce sont les parce que je suis un grand amateur de l'Aragon et du Haut-Aragon. Et donc c'est ce livre c'est une anthologie de photos de Lucien Brié sur l'Aragon, qui est magnifique. En plus, c'est une édition bilingue. Donc pour les amateurs d'espagnol, on a les commentaires à la fois en espagnol et en castillan et en français. Donc
sur des photos sur les villages de montagne.
Voilà, sur les villages de montagne. Donc à la fin du siècle dernier, au début du siècle, 1911, etc. Et je m'aperçois que je crois que je connais tous ces villages-là. Il n'y en a pas un seul, je crois, que je ne connaisse pas. Et ça me fait énormément plaisir de voir...
La montagne est une frontière, pas en littérature, apparemment.
Oui, mais je pense qu'on a tendance à dire que les Pyrénées n'ont jamais vraiment été une frontière. Bon, que ce soit au Pays Basque, que ce soit en Catalogne, on se rend compte...
Une culture commune ?
Oui, bien sûr. Culture commune, langue commune aussi dans pas mal d'endroits, donc, puisque Pays Basque Sud, Pays Basque Nord, Catalogne et...
Val d'Aran, tout ça.
Val d'Aran, bien sûr, le Val d'Aran est de culture gasconne. C'est une erreur politique que le Val d'Aran appartienne à l'État espagnol. Et d'ailleurs, le Val d'Aran, de façon fort légitime, revendique sa personnalité propre.
Qu'est-ce qui caractériserait la Bigorre par rapport à tous ces territoires des Pyrénées ?
Bon, évidemment, il y a la particularité linguistique. Bon, c'est le Bigourdan n'est pas le Béarnais.
Ce sont toutes des langues gasconnes, non, c'est ça ?
Oui, bien sûr. D'après moi, les substrats, peut-être d'origine basque, seraient peut-être plus présents en Bigorre qu'en Béarnais. Mais je dis ça sous toute réserve. L'ère linguistique basque était jadis beaucoup plus répandue sur l'ensemble des Pyrénées. Les différentes régions des Pyrénées ont été romanisées, latinisées de façon différente.
Vous la parlez vous-même, cette langue ?
Je l'ai étudiée. Bon, j'ai du mal à la parler parce que je suis en réalité languedocien. Donc je parle plus facilement, je comprends et je parle plus facilement le dialecte de languedocien que le... Je comprends, c'est bien. Mais pour parler, c'est plus difficile.
Dans votre librairie, on trouve aussi des livres en gascon.
Oui, bien sûr. Vous avez même Initiation en gascon de Robert Darigrand. Bon, oui, bien sûr.
Je suis bouquiniste et je viens d'Ariège. Voilà, je me situe dans la banlieue de Foix.
Et la majorité des livres que vous proposez sont des livres de territoire, je dirais
Oui, essentiellement, on va dire, pour 90% pyrénéens et les autres alpins.
D'accord.
Parce que ça concerne surtout la montagne avant tout. Voilà.
Et sur les Pyrénées, c'est surtout des livres d'histoire ou...
Ethnologie, histoire, faune, flore.
Est-ce qu'aujourd'hui on a toujours autant de possibilités de trouver des livres sur les territoires qu'avant ? Est-ce qu'il y en a plus ?
Peut-être un peu moins. Ça se raréfie, les gens se les gardent, pour la plupart. Et bon, ça provient surtout de succession ou de déménagement.
Vous avez quelques raretés là?
Plus vraiment, non. J'ai peut-être une rareté aujourd'hui sur le stand. C'est un ouvrage de M. Martel et c'est l'Écosse majeure, voilà, en édition originale.
Est-ce que vous pourriez, par exemple, me présenter un livre que vous auriez à me conseiller, si j'aime les Pyrénées?
Peut-être celui-ci, les Pyrénées centrales, du 9e au 19e siècle, qui, après ce qu'on m'a dit, est épuisé. Ma bouquinerie, elle est en activité depuis 11 ans. Enfin, je suis généraliste, je ne suis pas spécialisée, mais je m'attache quand même à trouver des ouvrages pyrénéens. Bon, évidemment, avant tout ariégeois, puisque j'y suis, mais pas seulement.
Et vous, pour vous, le fait de faire un salon, ça représente quoi?
Mais déjà, je suis très contente d'être parmi vous, parce que c'est un très beau salon. On y est très bien reçu. Moi, disons, ça me permet aussi d'agrandir ma zone de chalandise.
Donc le nom de la bouquinerie, c'est
Éclectique, voilà. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les marchés en Ariège, depuis Foix jusqu'à Axéterme.
Bonjour, Thibaut de Rouvray, président de la Société académique des Hautes-Pyrénées, alors, qui est une institution vénérable, hein, qui a été fondée en 1853, dans le courant en fait, de toutes ces sociétés savantes qui étaient créées dans chaque département et qui réunissaient des notables qui étaient curieux un peu de recherche d'histoire, de poésie, d'agriculture. Donc voilà, on maintient cette tradition. Et on continue à organiser régulièrement les premiers samedis du mois à Tarbes, à la Bourse du Travail, des réunions où des chercheurs, des étudiants, des écrivains présentent leurs travaux, leurs recherches. Et voilà, donc on regroupe une centaine de membres et les séances que l'on propose sont gratuites et sont ouvertes à tout public et aux personnes qui veulent éventuellement adhérer. Et en échange, on publie un bulletin chaque année qui reprend le compte rendu de ces séances.
Vous êtes en même temps une maison d'édition?
Non, on n'est pas à ce statut-là, mais c'est vrai que les auteurs ne sont pas rémunérés. C'est un travail bénévole, hein, tout ce travail de recherche. Mais on travaille avec une imprimerie et qui publie.
Vous avez beaucoup de lisons d'ouvrages là sur le...
Oui, on a environ une centaine de publications dont il nous reste encore des stocks et régulièrement, au moins une fois par an, le bulletin annuel qui paraît. Et puis périodiquement, des travaux de recherche un peu plus aboutis. Par exemple, celui-ci sur la Barousse qui est apparu il y a 2 ans, ou un autre sur l'arsenal de Tarbes.
C'est essentiellement historique, géographique?
Oui, c'est vrai que c'est très recentré en fait sur des travaux d'histoire, d'archéologie, de géographie également. À une époque, il y a eu des publications sur la botanique, sur les minéraux, mais ça un peu moins. D'autres sociétés savantes le font aussi, comme la Société des Sept Vallées. Donc on est essentiellement axé sur l'histoire, mais de toutes les époques, hein, de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine.
Vous travaillez avec des médiathèques ou avec l'Éducation nationale?
Alors on fournit nos ouvrages à certaines médiathèques, et beaucoup de nos contributeurs sont eux-mêmes enseignants, donc ils peuvent associer parfois leur classe à des travaux de recherche, à des publications.
Au niveau culturel, est-ce que vous travaillez aussi sur la langue?
Alors, un peu, ça s'est fait à une certaine époque, puisqu'on a un vocabulaire gascon, on a eu des publications. C'est un peu moins actuellement le cas, parce qu'il y a aussi d'autres associations, d'autres structures qui ont pris le relais. Ne serait-ce que quand on étudie des documents du Moyen-Âge, au même du XVIe siècle, on est confronté à la langue gasconne, donc on peut aussi avoir des éléments de ce domaine.
Il y a encore donc des gens qui travaillent sur les recherches de ces années-là, de ces époques-là?
Oui, alors ça devient de plus en plus rare parce que c'est vrai qu'on est maintenant un peu en pénurie d'étudiants parce que les cycles universitaires sont assez raccourcis et beaucoup d'étudiants ne vont pas forcément se diriger vers la recherche. Donc c'est vrai que les personnes qui sont capables de lire et d'interpréter ces documents se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Mais ça permet quand même justement, par leur travail, de témoigner de ces écrits et de garder cette mémoire aussi. l'histoire locale.
Qu'est-ce qui, si vous aviez à résumer, qu'est-ce qui peut caractériser, par exemple, la mémoire des Hautes-Pyrénées par rapport à d'autres?
Alors c'est vrai qu'il y a, souvent, par rapport à d'autres régions, une carence à la fois dans les archives et dans les vestiges, hein, puisqu'il y a eu une histoire assez mouvementée ici, depuis le XVIe siècle. Donc souvent, il faut la retrouver dans quelques bribes de documents, il faut la retrouver aussi dans des vestiges archéologiques, étudier du bâti pour essayer de compenser ce que l'on n'a plus au niveau de l'écrit. Mais on arrive quand même, on arrive toujours à produire quelque chose et à trouver des éléments sur l'histoire d'un village, d'une église, d'une famille.
Vous avez un site internet ?
Oui, si vous tapez sur un moteur de recherche « Société académique des Hautes-Pyrénées », vous arrivez sur notre site.
En fait, le but de ce stand, c'est de faire connaître le travail du Parc National en matière d'édition. Le Parc National est un partenaire important pour l'édition de livres à caractère patrimoniaux et naturalistes sur son territoire, sur les deux départements donc des Pyrénées Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. On vient de collaborer à l'édition du dernier livre de Céline Donal aux éditions Mont-Hélios sur les guides de Gavarnie. On en est très heureux. Et puis voilà, on présente notre travail de fond, une collection sur le petit patrimoine bâti des vallées du parc, et puis des ouvrages historiques et de référence, celui de Marcelin Béraud sur la toponymie, et puis Paysans d'altitude par exemple, et puis je donne aussi un peu d'informations gratuites sur le territoire du parc national.
Ce sont des livres qui sont pensés grand public ou est-ce qu'ils sont plus pour des professionnels ou institutionnels ?
Non, vraiment, ils sont conçus pour être destinés au plus grand nombre dans une approche pédagogique. C'est des livres extrêmement faciles à lire, souvent bien illustrés, avec donc la volonté de toucher le plus grand nombre. C'est plutôt des livres avec un contenu scientifique. C'est des livres. Il y a des livres de contes hein, qui sont des livres de création ou qui reprennent des contes anciens. Mais la plupart du temps, on édite des livres de vulgarisation et de contenu scientifique.
Et quand ce sont des contes, vous faites appel à des auteurs
ou... Oui, c'est Louis-Marie Espinassou qui a longtemps collaboré au Parc National des Pyrénées, qui a recueilli ces contes traditionnels de nos montagnes.
Et au niveau des tranches d'âge, vous touchez un peu tout le monde ?
Oui, on a aussi une collection pour les enfants, avec un certain nombre de publications illustrées qui sont destinées à faire connaître la montagne et la faune de montagne aux jeunes enfants et même aux très jeunes avec des coloriages destinés aux tout petits.
Est-ce que vous travaillez avec des médiathèques ou des endroits avec l'éducation nationale par exemple ?
Oui, on travaille avec l'éducation nationale bien sûr et on a une très grosse mission d'éducation en l'environnement avec un certain nombre d'ouvrages et de dispositifs qui sont prévus pour les élèves dans le cadre des parcours scolaires du premier et du second degré. Tous nos livres sont disponibles bien sûr, on les offre gracieusement à toutes les médiathèques du territoire. C'est des livres qui sont vendus dans toutes les librairies du territoire et même dans les librairies en ville, dans le Piémont et jusqu'à Toulouse-Bordeaux.
Il y a un contact site internet ou autre ?
Oui, je ne vais pas savoir vous le dire par cœur, mais quand on tape Parc National des Pyrénées dans Google, on tombe tout de suite sur la page du Parc National. Et effectivement, il y a un onglet achat sur lequel on peut se procurer toutes ces références.
L'affiche du salon est créée tous les ans par un artiste différent qui fait une œuvre pour le salon. Donc cette année, c'est Raoul Collin qui a fait cette installation sur un thème du passage. Donc c'est des gens qui passent, mais le passage aussi qui est de passer des signes à l'écriture, des choses comme ça. Quoi.
D'accord. Et pour terminer, en gros, le salon de l'année prochaine, vous avez quelques idées de ce qu'il pourrait avoir de différent ou...
Ça sera le 10e salon, on va marquer le coup. On va marquer le coup, mais on n'a pas tout défini. Il y aura sûrement des événements un peu mémoriels, non pas tant par rapport au salon, mais peut-être par rapport à de l'édition pyrénéenne. Voilà, il y a des anniversaires qui se chevauchent dans l'édition pyrénéenne et d'accord. Le salon. Mais j'en dirai pas plus.
Réalisation Bernard Autant pour Radio Terre. Temps pour Radio Terre. Temps pour Radio Terre. Temps pour Radio Terre. Temps pour Radio Terre.